pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, il est important de comprendre que le changement climatique, c'est un problème de stock et pas un problème de flux. Je m'explique. Depuis le milieu du 19e siècle, nous avons accumulé des quantités énormes de gaz à effet de serre à 20 km au-dessus de nos têtes à cause de nos activités humaines, essentiellement la combustion du charbon, du gaz et du pétrole. Nous sommes passés de 280 parties par million à 420 parties par million. C'est une unité de mesure utilisée par les scientifiques pour la pollution. Et le problème est double. Non seulement nous continuons à émettre massivement des gaz à effet de serre, mais il reste des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années pour certains dans l'atmosphère. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Les conséquences du changement climatique que nous commençons à percevoir ne vont pas diminuer, elles vont s'accentuer. Nous devons donc nous adapter, et c'est loin d'être simple, comme nous allons vous l'expliquer dans cette émission, avec l'exemple de l'île portugaise de Madère, située au large du Maroc. Réputée pour son vin et son climat tropical, elle attire chaque année plus de 1,5 million de touristes, mais elle est menacée de crues dévastatrices qui ont déjà fait des morts. Alors comment concilier développement touristique, préservation du milieu naturel et sécurité des habitants ? Voilà le programme de C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Sylvie Clarimont.
Bonjour.
Vous êtes géographe, chercheuse au laboratoire TRI, ça veut dire Transition énergétique et environnementale du CNRS, et professeure à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous êtes en charge du master tourisme. Alors, est-ce que vous êtes d'abord d'accord sur le fait qu'il est urgent de prendre conscience que nous devons nous adapter aux conséquences du changement climatique qui vont s'accentuer ?
Bien sûr, on peut difficilement être en désaccord avec cette idée. Je pense qu'il faut s'adapter sans pour autant renoncer à atténuer les effets du changement climatique et s'adapter, donc accepter de vivre avec le changement climatique et essayer de composer avec celui-ci. Il y a déjà des expériences d'adaptation qui sont menées, il y a déjà des tentatives d'adaptation qui sont menées dans le secteur agricole, par exemple, quelques exploitants agricoles qui sont en train de revoir leur schéma d'exploitation pour vivre avec ce changement climatique qui est de plus en plus présent. Des vignobles qui, petit à petit, changent de localisation, montent en altitude, montent un petit peu plus en latitude aussi. Donc, on a des adaptations qui sont très visibles dans certains secteurs de l'économie particulièrement vulnérables au changement climatique.
Alors pourtant, l'essor du tourisme de masse, qui progresse chaque année de 3 à 4 % n'en prend pas la direction de cette adaptation. Les chiffres sont vertigineux, 1,5 milliard de touristes, un secteur qui représente 10 % du produit intérieur brut mondial et dont dépend en moyenne un emploi sur 10 dans le monde. Or, le tourisme implique des avions qui émettent des gaz à effet de serre et la construction d'infrastructures souvent destructrices des milieux naturels.
Bien sûr, c'est une réalité. Alors, on espérait, avec la crise sanitaire, on espérait que les flux touristiques de masse allaient peut-être s'atténuer en période post-Covid. Et puis l'année dernière et cette année à nouveau, visiblement, les réservations de billets d'avion pour des destinations lointaines ont progressé à un rythme extrêmement rapide et on assiste à un rattrapage par rapport à la période antérieure à la Covid. Donc c'est un peu la période de désenchantement après les espoirs suscités par la crise pandémique dont on espérait qu'elle aurait au moins cet effet positif. Non, là, il faut reconnaître.
Il y a eu beaucoup d'articles et nous aussi, on a fait des émissions sur le monde d'après, point d'interrogation. Finalement, c'est retour au monde d'avant.
C'est retour au monde d'avant avec peut-être encore plus d'envie de partir et de partir loin.
Alors que c'est une activité qui est réservée à quelques-uns, c'est quoi, seulement 10%, un peu plus de 10% des humains qui prennent l'avion ?
Oui, c'est à peu près ça. Mais toutefois, avec la généralisation des vols à faible coût, des low cost, cette possibilité d'aller loin, d'aller au moins une fois dans sa vie loin, c'est ouverte à plus de personnes, du moins dans le monde développé. On parle bien du monde développé. L'accès aux voyages et aux voyages lointains étant réservé quand même à des personnes qui ont des revenus suffisants pour se permettre de partir en vacances déjà et de partir loin.
Alors la question de la gestion de l'eau est particulièrement source de tension hein, dans de nombreux endroits touristiques. Je pense par exemple au sud de la France, à Argelès, la capitale européenne du camping. Hein, comme dans toutes les régions de France, cette région est confrontée au manque d'eau et à l'affluence touristique. Et les professionnels tentent de promouvoir des mesures d'économie d'eau. Mais c'est compliqué parce que sur les 52 campings, 70% ont des piscines. Et c'est un problème dans le contexte de la sécheresse de cette année qui, comme nous l'avons expliqué, ne va pas diminuer avec les années ?
Non, effectivement. Bon, Argelès-sur-Mer, c'est une station balnéaire qui est située dans les Pyrénées-Orientales, le département dont on parle le plus, aujourd'hui en France du moins, parce que c'est celui qui est confronté à la sécheresse la plus longue et la plus forte, une sécheresse quasiment inédite, même si le département avait connu déjà des épisodes de sécheresse. Aujourd'hui, la sécheresse qui sévit actuellement, elle dure depuis l'été dernier, en fait, avec un hiver marqué par de très très faibles précipitations. Donc le département est confronté aujourd'hui à une situation critique. Les réserves d'eau, parce qu'il y en a beaucoup, il y a un certain nombre de barrages dans le département, sont au niveau le plus bas. Les cours d'eau connaissent également des débits très très faibles. Et le secteur du tourisme doit s'adapter. Et peut-être faudrait-il envisager, quand les réserves d'eau sont aussi basses, de privilégier l'eau potable et l'alimentation des populations. Peut-être en second lieu l'agriculture, plutôt que des équipements de loisirs qui ne sont pas indispensables à la vie.
Alors je vous propose de descendre encore un peu plus au sud, en face du Maroc, vers l'île portugaise de Madère, qui accueille chaque année plus de 1,5 million de touristes. Elle est également chaque année, et notamment chaque hiver, menacée par de fortes crues, surtout dans sa partie basse où convergent deux grandes rivières qui prennent source plus de 1000 mètres plus haut. L'année 2010 fut dévastatrice pour l'île et ses habitants, 51 morts, 600 personnes sans logement et plus d'un milliard d'euros de dégâts chiffrés. Et ce scénario pourrait se répéter à l'avenir sous les effets du changement climatique. Mais les caprices météorologiques ne sont pas les seuls responsables. Ils se conjuguent aux conséquences d'un développement du tourisme de masse depuis les années 80 qui a pensé pouvoir défier la nature. La ville repense maintenant son habitat et mise sur des protections naturelles en sensibilisant sa population aux risques. Portrait d'une île qui tente de résoudre l'équation entre un développement économique basé sur le tourisme, la préservation de son milieu naturel et la sécurité de ses habitants. C'est un reportage de Samuel Turpin. Il est accompagné de Elder Spinola, biologiste engagé dans la préservation de l'île.
Bom, nós estamos exatamente no local onde antes era mar.
Ici même, à cet endroit, avant le 20 février 2010, c'était l'océan, la plage de sable noir du centre-ville de Funchal. Après la catastrophe, les autorités ont déblayé tous les gravats qui avaient été charriés par les deux rivières et qui s'étaient accumulés ici sur la partie plate de la ville. Ils en ont fait cette jetée sur laquelle nous marchons actuellement. C'est aujourd'hui à la fois un port où sont amarrés les bateaux de croisière pour les excursions touristiques à la journée et un endroit public où les gens se promènent, font leur jogging, mangent des glaces ou viennent écouter de la musique. C'est à la fois un symbole de la catastrophe du 20 février 2010, mais ça peut paraître aussi un peu cynique.
Bastava ligar o vídeo naquela manhã de sábado para capturar imagens assombrosas.
Acabou por trazer das montanhas.
Si tu tournes la tête, tu vois d'ici les montagnes qui culminent à plus de 1500 mètres. Tu vois la ville de Funchal qui forme comme un grand amphithéâtre accroché à la montagne et qui monte à peu près 700 mètres. Et au-dessus, tu aperçois de la forêt. Tu vois aussi ces trois grandes saignées taillées dans la montagne. Ce sont les trois rivières qui descendent du sommet. Deux d'entre elles convergent vers le centre-ville de Funchal. La troisième part plus à l'ouest. D'ici, on voit bien cette forme d'entonnoir qui vient jusqu'à nous, jusqu'à la place de l'autonomie, pour se jeter ensuite dans l'océan, avec ce rétrécissement progressif du lit des rivières qui provoque un phénomène de bouchon.
Cette grande quantité de matériel, due à une chuva muito intensa.
Les jours précédant la catastrophe, il y avait eu de fortes pluies qui avaient charrié du bois, des pierres et de la boue dans le lit des rivières. Et le 20 février, au matin, lorsque les pluies torrentielles se sont déclenchées, tous ces débris ont été emportés par le courant pour venir se fracasser dans la ville basse de Funchal.
En vérité, estamos a falar de uma conjugação de fatores.
Parmi les causes, il y a évidemment ce phénomène climatique extrême. Mais c'est d'abord le résultat d'une combinaison de facteurs. D'abord, ça questionne la qualité du couvert végétal au-dessus de la ville, qui ne parvient pas à absorber les eaux de pluie et à fixer les sols. Ensuite, cela pointe un problème d'aménagement du territoire. La ville de Funchal s'est beaucoup agrandie ces 50 dernières années à cause du tourisme et d'une manière plutôt désorganisée. D'ailleurs, ces risques avaient déjà été soulevés et débattus ici lors d'incendies ou de tempêtes précédentes. Ce n'est pas nouveau. On ne découvre pas ces risques.
Le 20 de février de chaque année, mais c'est vrai que nos premiers 5 ans, nous signalons d'une forme beaucoup plus sentie.
Si en effet le 20 février a été un choc, on constate que ce souvenir collectif a été très intense durant 5 ans, puis on a vite oublié. Ce travail de mémoire s'est effacé progressivement, et on peut dire 13 ans plus tard que c'est maintenant bien loin. Les promesses des politiques sur l'aménagement du territoire n'ont pas été tenues. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que, de manière générale, nous ne semblons pas vraiment conscients des conséquences du dérèglement climatique extrême qui pourrait nous toucher dans un futur proche.
Extrêmes qui tendront à être plus graves et plus fréquentes dans le futur.
Donc là, Elder, on quitte ce nouveau quai pour rentrer dans le cœur de la ville historique en empruntant cette magnifique rue piétonne bordée d'arbres mauves, jaunes.
Nous sommes ici junto à umas árvores lilases.
Ici à Madère, on a l'habitude de dire que nous faisons le tour du monde des espèces végétales. Ces magnifiques fleurs violettes, c'est le jacaranda. Et celui avec les fleurs jaunes, c'est le tipuana, ce qui signifie l'orgueil de Bolivie. Avec ce climat subtropical, tout pousse ici. Madère, c'est l'île aux fleurs, un jardin flottant. Devant nous, c'est la statue de João Zarc, l'un des capitaines qui a découvert l'archipel de Madère en 1420. Le peuplement de l'île a débuté en 1425.
Elder, je te propose de quitter Monsieur González Zarco pour aller vers un autre lieu très symbolique, vers la place de l'autonomie, où on va rejoindre Manuel Oliveira. Il est le directeur du secrétariat de l'environnement et du changement climatique pour l'île de Madère. Il va nous expliquer l'ensemble des travaux et des infrastructures qui ont été réalisées pour éviter que les crues ne se répètent.
Allons-y. La place de l'autonomie est un lieu symbolique, pas seulement pour des raisons politiques, mais c'est le point de convergence entre deux rivières, João Gomes et Santa Luzia, là où il y a eu le plus de dégâts en 2010.
Sou do fado.
Joel, vim ontem.
Como sei.
O táxi.
Vivo um poema cantado. D'un fado que eu inventei. Não estivesse a meu lado.
Manuel Arau Rivera, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir de parler avec vous.
Manuel, la place de l'autonomie, c'est le point de mémoire, l'épicentre des crues du 20 février 2010. C'est une journée que vous ne pouvez pas oublier.
Uma manhã cinzenta, muito escura, o mar negro.
Ce fut une journée terrible, comme un scénario de film catastrophe. Imaginez une matinée toute grise, un océan tout noir, une pluie tropicale, des crues torrentielles, d'immenses roches et des troncs d'arbres sont venus perforer les habitations et les commerces. Des voitures ont été emportées, écrasées. Dans certaines zones, l'eau est arrivée jusqu'au premier étage des habitations. Imaginez un peu, pour porter secours aux gens, nous avons dû utiliser des bateaux.
Usou-se barcos dentro da cidade. L'alluvion du fameux 20 février teve as duas coisas.
La catastrophe du 20 février 2010 est le résultat de plusieurs facteurs. D'un côté, les pluies torrentielles et des inondations. De l'autre, la force de l'océan qui remontait dans les lits des rivières et qui a empêché l'eau de s'évacuer.
Logo à cabeceira das ribeiras, no início das ribeiras, criamos umas estruturas que chamamos os açudes.
Nous avons donc créé en amont des rivières des structures que nous appelons açudo, qui ressemblent à de grandes fourches inversées. L'objectif est de retenir tous les gravats en ne laissant passer que l'eau. Les lits des rivières ont été creusés puis maçonnés pour faciliter l'écoulement et éviter que des roches soient emportées par le courant. Nous avons équipé tous les ponts de capteurs et de caméras. Nous avons également construit des murs de protection pour protéger les habitations près du lit des rivières et nous avons recensé les zones à risque dans un plan de développement municipal. Ensuite, nous avons entamé la reforestation au-dessus de la ville. Nous avons racheté des terrains auprès de privés pour replanter des espèces plus résistantes au feu et qui fixent davantage les sols, mais aussi pour créer des zones vierges sans végétation qui évitent, en cas d'incendie, que les feux se propagent.
Un thème très important que nous apportons beaucoup, c'est la capacité préventive de monitorisation.
Enfin, nous faisons également un travail de prévention et d'anticipation. Nous disposons de systèmes météo plus fiables et des systèmes d'alerte par téléphone auprès des populations en cas de danger.
Elles disparent une alarme centrale et les personnes ont connaissance.
Manuel, les scénarios du changement climatique sur l'île de Madère prévoient des contrastes entre les saisons, avec une saison sèche de plus en plus longue et de plus en plus chaude, mais aussi des épisodes pluvieux de plus en plus extrêmes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pensez que Madère est prête pour ce genre de scénario?
Bon, je pense qu'aucun territoire est complètement préparé pour les demain. Mais on peut dire qu'ici, on connaît déjà l'évolution. Desde os anos 90, 1990...
Nous voyons déjà ces effets du dérèglement climatique. Depuis 1990, le niveau de l'océan a augmenté de 16 cm et la température moyenne sur l'année de 1 degré. Le niveau de pluviométrie a lui baissé de 30% en moyenne. Et on observe bien que les phénomènes climatiques extrêmes sont plus fréquents. Après la catastrophe de 2010, nous avons connu trois grands épisodes d'incendie, en 2012, 2013 et 2016. Une tempête énorme a frappé la ville en 2011 avec des vagues de 7 mètres qui ont dévasté le port et les bateaux amarrés. C'est vrai que nous connaissons notre histoire, l'histoire de l'île, qui a connu de nombreuses catastrophes. Ça explique notamment pourquoi la sensibilisation est peut-être un peu plus difficile. Les gens vivent avec ce risque au quotidien, mais nous en prenons de plus en plus conscience et nous l'anticipons. Par exemple, nous avons beaucoup d'eau en période hivernale grâce à nos montagnes, soit par la pluie, soit par contact des nuages. Mais nous pouvons en manquer l'été. Jusqu'à présent, nous ne captions pas cette eau hivernale.
Et pour cette raison, l'apposta a été la construction de grands tanks, lagoas d'altitude.
Donc en 2021, nous avons construit des lacs d'altitude artificiels qui ont plusieurs fonctions. D'abord, ils captent l'eau d'hiver pour constituer des réserves. C'est pour nous comme une grosse batterie naturelle pleine d'énergie qui peut être utilisée à la demande en fonction des besoins. Quand on lâche de l'eau de ces réservoirs, l'eau est utilisée pour alimenter les centrales hydroélectriques. Cette même eau peut être repompée à plusieurs reprises. Puis, elle peut être ensuite dirigée pour l'irrigation des cultures et pour les besoins domestiques. Enfin, ces lacs servent également de réservoirs pour lutter contre les incendies.
Manuel, avec 1,8 million visiteurs l'année dernière, comment fait-on en tant que directeur du secrétariat de l'environnement et des changements climatiques pour essayer de résoudre l'équation entre le développement économique de l'île, le développement touristique, avec ce que ça peut amener comme nuisance, et la préservation de l'île et la sécurité des habitants?
Si, vraiment, c'est un exercice quasi impossible. Non?
Oui, c'est un exercice difficile. Il faut comprendre aussi que la topographie montagneuse de Madère augmente le risque de manière générale. Mais l'hôtellerie touristique s'est prioritairement développée dans les zones les plus sûres. Je pense notamment au quartier San Martino, qui est à une altitude plus élevée et loin d'un cours d'eau à risque, donc nettement moins exposé.
Elder, pour toi, en tant que biologiste, mais aussi engagé dans le combat environnemental, cette équation, c'est d'abord des choix politiques.
Et acaba por ser realmente uma situação difficile de conciliar.
Il est en effet très difficile de tout concilier, car nous sommes sur une île où l'écosystème est fragile. Il y a une forte pression économique. Le tourisme est en effet la colonne vertébrale de l'économie madérienne. D'ailleurs, il a battu des records après la pandémie. Évidemment, tout le monde s'est réjoui, mais très vite, on a retrouvé la face sombre que représente le tourisme de masse. Je pense que nous devons étudier la possibilité de limiter le nombre de touristes, ou du moins le réguler et viser un tourisme plus qualitatif, ce qui serait bénéfique à tout le monde, à commencer par les touristes eux-mêmes, qui pourraient davantage davantage profiter de l'île. Quand on regarde simplement autour de nous, on peut sentir partout cette pression. Cela déteint sur tout le paysage et la ville. Récemment, les autorités ont décidé d'établir des quotas, mais on observe que cela n'est jamais respecté.
Merci beaucoup, Manuel.
C'est un plaisir. À bientôt.
Elder, nous allons quitter ce bord de mer et la place de l'autonomie pour débuter une longue ascension et rejoindre les hautes Funchal à la lisière de la forêt en compagnie de Elsa Araujo. Elle est membre de l'organisation environnementale Quercus qui est très connue ici à Madère.
Oui, allons-y.
Elsa, bonjour.
Bonjour, Samuel.
Vous allez nous conduire vers un site qui surplombe l'entièreté de la ville de Funchal. On va pouvoir constater l'expansion de la ville.
Oui, mais primeiro vamos passar aqui na...
Oui, avant d'arriver là-haut, je vais d'abord vous montrer sur le chemin le chantier de la nouvelle station de traitement des eaux usées qui se construit au fond même du lit d'une rivière. On en connaît malheureusement bien les risques ici à Madère.
On va marcher.
On va marcher.
Puis nous, on va faire attention hein, parce qu'il n'y a pas de trottoir, les rues sont étroites et il faut composer entre les voitures, les scooters et les piétons. Et les piétons n'ont pas la priorité.
Aquela obra que vocês veem aqui, portanto, isto é a nova etapa do Funchal.
Nous voici devant le nouveau chantier de cette station de traitement des eaux usées, qui est, comme le panneau l'indique, financé très majoritairement par l'Union européenne. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si elle est au courant que les fonds sont utilisés dans une telle zone à risque. Il y a le panneau juste là, qui résume le chantier. Le coût est de 14 383 000 euros. Et la contribution européenne est à la hauteur de 12 500 000 euros. Regardez tout simplement. Vous voyez, cette station est en train d'être construite là, dans le lit de la rivière. Ils construisent un mur de béton légèrement en amont pour la protéger et pour détourner le lit de la rivière. Mais si le phénomène du 20 février se répète, c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Second problème, cette station est directement sous des falaises de 35 mètres. Il y a donc un double risque. Comment peuvent-ils décider cela? Eh bien, le plan de développement municipal qui avait été décidé après 2010 a été suspendu par le nouveau gouvernement, ce qui leur permet de contourner la législation pour autoriser de nouveaux projets de construction. À notre avis, c'est complètement irresponsable. Un autre exemple, c'est la route de Camino da Ginja, qui relie Saint-Vincent au plateau sur le nord de l'île. C'est une route ouverte durant les années 80. Elle est en terre. Et maintenant, le gouvernement veut la goudronner. Cette route traverse la forêt de Lore Silva, inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Il y a eu une grande mobilisation citoyenne pour bloquer le projet, qui est aujourd'hui porté en justice. Alors ce qui nous semble aberrant, c'est que le projet d'asphalter la route serait financé par les fonds de l'Union européenne, alors que cette même Union européenne finance le projet LIFE, dans la même zone, pour préserver l'habitat des espèces animales, notamment une espèce de faucon rare qui pourrait être impactée par le chantier. Nous ne comprenons pas cette contradiction. L'Union européenne ne devrait pas uniquement écouter les autorités, mais aussi les autres acteurs.
Várias entidades, peça para ouvir várias entidades, porque uma coisa é a versão oficial do governo.
On poursuit, Elsa, nous allons au prochain site.
Ok, ok.
Il fait chaud là, il est environ 16 heures.
Très chaud, en avril. On sent les altérations climatiques. Ok,
ça va.
Okay. Ok, Samuel, nous sommes arrivés. C'est ici que je voulais t'amener.
Ici, on a une vue en amphithéâtre de toute la ville de Funchal.
Très jolie. Cette île, c'est très très jolie.
Et c'est une jolie balade, hein. 750 mètres environ de dénivelé. Bon, on doit l'avouer, on s'est fait un petit peu aider. Et Elder Spinola nous a quittés durant l'ascension. Très belle vue. D'ici, on découvre toute l'agglomération de Funchal en amphithéâtre. Funchal regroupe environ la moitié de la population de Madère. Et nous avons commencé ce reportage avec Elder Spinola au niveau de la mer. Il nous décrivait ces saillies, ces tranchées, notamment de la rivière Joao Gomez. Et bien là, nous sommes au sommet. Et on remarque bien cette forme d'entonnoir qui file vers le centre de Funchal, vers la place de l'autonomie.
Si.
Ah, on est vraiment à la lisière entre les maisons et la forêt. Hein. Ce sont les dernières maisons. C'est très calme. Ça sent très bon. Hein.
Si.
Ça sent l'eucalyptus. Ça sent le mimosa. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle?
C'est une menace. Cette espèce de plante, eucalyptus et mimosas, acacias, sont espèces.
Le couvert végétal sur toute cette zone est une véritable menace, car la végétation est composée d'espèces invasives qui se propagent très vite et qui tuent les autres espèces. Il s'agit d'eucalyptus et d'acacia qui sont très inflammables en temps sec et chaud. Si les vents dépassent les 30 km/h, les incendies deviennent quasiment incontrôlables. Quand les acacias et les eucalyptus brûlent, les terrains sont fragilisés, car leurs racines ne sont pas profondes. En cas de pluie, rien ne peut alors ralentir le ruissellement des eaux, et cela provoque l'effondrement de terrain, ainsi que le glissement de boue et de débris végétaux. En revanche, avec des plantes et des arbres plus résistants au feu, comme les lauriers, la bruyère ou les myrtilles, l'île serait moins vulnérable aux incendies, et le sol serait mieux fixé, ce qui aiderait à prévenir de grandes inondations.
Elsa, l'eucalyptus n'est pas une espèce endémique de Madère, il a été importé.
Oui.
En sachant, en connaissant ces risques, pourquoi fait-on ce choix de ces espèces?
Numa altura em que o carvão era combustível muito procurado.
Quand le charbon à l'ère industrielle était la principale source d'énergie, une partie de la forêt de Laure et Silva, la forêt originelle de Madère, a été décimée pour les besoins électriques et industriels de l'île. Il n'y avait ni gaz ni fuel à l'époque. Donc les dirigeants avaient décidé de planter des espèces qui poussent rapidement pour faire face à la demande. Aujourd'hui, ces espèces ont proliféré. Et l'abandon progressif de l'agriculture par manque d'intérêt et au profit du tourisme a laissé des terres à l'abandon, ce qui est propice pour l'expansion de ces espèces invasives. Le gouvernement a pris des bonnes initiatives d'urgence en attendant de renouveler ces espèces. Ils ont créé des bandes sans végétation pour constituer des pare-feux et pour éviter que les incendies se propagent. On pourrait faire plus. Comme par exemple encourager l'usage de terrains agricoles qui empêchent la prolifération de ces espèces et sensibiliser les propriétaires de ces terrains pour qu'ils les nettoient.
Malheureusement, en vários locais.
Regardez, aujourd'hui encore, on voit tous ces matériaux très proches du lit des rivières. Il suffirait d'une forte pluie pour que le scénario de février 2010 se répète avec ses conséquences dramatiques. À certains passages de la rivière, le lit a été aménagé, c'est vrai, mais il a aussi rétréci en largeur, ce qui risque de créer un effet bouchon et de provoquer des inondations. Le 20 février nous a appris que tout ce qui est construit dans et autour de ces passages est détruit. Pourtant, on voit aujourd'hui que l'on refait la même chose. Les terrains agricoles sont vendus pour l'immobilier, ce qui pose aussi le problème de notre capacité agricole, de notre autonomie alimentaire et donc de notre dépendance aux produits importés. On l'a observé à nos dépens ici, durant la pandémie et maintenant face à la guerre en Ukraine. Nous comprenons que le tourisme est important, mais pas à n'importe quel prix.
L'apport au tourisme, nous achamos que c'est demasiado grande.
Alors Elsa, il y a une voix, une figure de l'île qui nous rejoint, c'est Ricardo Freitas. Ricardo, vous êtes journaliste au principal journal de l'île, Diario de Noticias, et vous êtes connu pour votre liberté de ton et de parole. Nous nous interrogeons avec Elsa et Elder sur cette équation, ce dilemme entre la nécessité d'un développement économique de l'île, le tourisme qui représente une manne très importante, et puis la préservation de l'île. On pourrait même ajouter
un quatrième facteur qui serait, si on se réfère aux crues de 2010, à la sécurité des habitants de l'île.
Nós temos aqui potencial enorme em termos turísticos, em termos económicos, e tudo isso começou a ser construído há cerca de duas décadas.
Madère a um potencial turístico enorme. Tout cela a commencé dans les années 80 pour s'accélérer dans les années 90-2000 grâce à des fonds européens. Le tourisme est devenu la manne financière de l'île et a remplacé l'investissement public qui avait toujours été le premier secteur. Alors, qui a bénéficié de ces investissements en priorité? Des entreprises locales qui se sont accaparées le monopole du secteur du tourisme et de la construction.
Qui aujourd'hui détient grande partie de ce qui est le pouvoir économique de la Madère.
Ça, c'est aussi un problème de perméabilité entre la politique et l'économie.
Il y a ici une ligation, ligations perigoses entre le pouvoir politique et le pouvoir économique.
Il y a des connexions étroites entre les pouvoirs politiques et économiques. Ce n'est pas nouveau. Cela s'est construit avec l'histoire de Madère, et nous sommes sur une île, donc c'est un microcosme où tout se sait et tout doit se taire. Ces deux sphères politiques et économiques sont verrouillées, et ce marché très juteux crée de la spéculation. L'immobilier est devenu inaccessible pour un Madérien de la classe moyenne, mas para aqueles que são proprietários, existe uma
oportunidade que é criada para quem é senhorio, quem tem as suas casas e que tem aqui uma grande rentabilidade. Após o 20 de fevereiro de 2010,
le 20 février 2010, nous étions concentrés sur l'urgence humanitaire. Mais dans un second temps, il a fallu établir les responsabilités. La justice a été saisie. Des investigations ont été ordonnées. Mais bizarrement, personne n'a été inquiété. Aucune responsabilité n'a été établie, même pas sur le manque de respect des règles d'aménagement du territoire. Et après de longs débats, le responsable désigné a été Saint-Pierre, car c'est lui qui avait lancé l'appui sur Madère.
É que a culpa foi de São Pedro. No caso da Luvião, morreram 50 pessoas, 600 pessoas ficaram sem as suas casas.
Il y a eu 51 morts. 600 personnes qui se sont retrouvées sans logement, plus d'un milliard d'euros de dégâts chiffrés, et la responsabilité est attribuée à Saint-Pierre.
De fond, qui tinha que ser feito, e a responsabilidade é de São Pedro. O governo tem...
Les gouvernements, sous la présidence de João Jardim, qui est resté 37 ans au pouvoir, ont toujours montré du mépris envers les écologistes et les questions environnementales. Et je me souviens d'une phrase de M. Jardim qui avait déclaré « Ce ne sont pas les hommes qui doivent se substituer à la nature, mais ce sont les hommes qui doivent la contrôler. » Ironique quand on regarde ce qui s'est passé le 20 février 2010.
Est-ce que tu penses qu'on a tiré les leçons de 2010?
Há sinais disso. Por exemplo, a própria secretaria foi criada pela primeira vez, uma secretaria regional.
Oui, il y a eu des signes de changement. Pour la première fois, il y a eu la création d'un secrétariat à l'environnement et au changement climatique. Mais d'autres choses n'ont pas vraiment changé, notamment la transparence sur l'attribution des autorisations de construire. Disons qu'on s'arrange et que les directives sont élastiques. On a l'impression que les règles sont appliquées uniquement dans les zones les plus à risque, celles qui sont visibles. Mais il reste un grand nombre de personnes qui vivent dans des zones reculées dangereuses. À la décharge du gouvernement, les Madériens sont très attachés à leurs terres et refusent d'être déplacés. Si les autorités faisaient respecter rigoureusement les directives, ce serait très impopulaire. Et le gouvernement n'a pas envie de prendre ce risque alors qu'il est déjà dans une position fragile avant les prochaines élections.
São difíceis de implementar.
Ricardo, comment peut-on résoudre ce dilemme entre le développement économique de l'île, des Madériens qui sont dépendants de cette économie, le tourisme et la préservation de l'île?
Essa é uma excelente questão, super oportuna. Ainda hoje em dia, o governo está a tentar responder. Por exemplo, os guias de montanha.
Le gouvernement se penche sur la question, c'est vrai. Des professionnels du tourisme, comme les guides de montagne, ressentent et alertent sur cette surfréquentation autour des randonnées. Ce qu'il faudrait, c'est réguler le nombre de touristes sur ces lieux. Mais ce qu'on observe, c'est que nous n'y sommes pas prêts.
D'ailleurs, nous n'avions pas imaginé qu'après la pandémie, l'île allait connaître une telle vague touristique. Mais la nature commence à montrer des signes de saturation. Le gouvernement envisage des systèmes de tarification, par exemple sur les lieux du Cabo Girão et sur la randonnée de Ponta de San Lorenzo. Ce qui serait bien, à mon avis, c'est que ces fonds générés soient dédiés à un fonds de préservation de l'île.
Un reportage de Samuel Turpin réalisé par François Porcheron. Sylvie Clarimont, je rappelle que vous êtes géographe, chercheuse au laboratoire Transition énergétique et environnementale du CNRS et professeure à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Alors, comment est-ce que vous réagissez globalement à ce reportage avant de rentrer dans le détail ?
Alors, moi, personnellement, j'ai trouvé ce reportage extrêmement intéressant par la pluralité des points de vue qui s'expriment dans ce reportage, par la capacité à mettre en évidence en très peu de temps les principaux enjeux auxquels est confronté cet espace insulaire, marqué par des risques importants, risques d'inondation, risques de tempête, risques d'incendie aussi, qui sont évoqués à plusieurs reprises dans le documentaire, avec des incendies de forêt de 2012, 2013 et 2016 qui sont évoqués. Donc une île extrêmement vulnérable à différents types de risques et une île qui accueille bien sûr une population touristique importante en haute saison touristique, grosso modo du printemps à l'automne.
Alors on parle des risques évidemment dans ce reportage et de cette catastrophe qui a eu lieu en 2010, qui a engendré des morts, des déplacements massifs de population et puis un coût très important pour Madère. Est-ce que cette catastrophe, selon vous, aurait pu être évitée ?
Bon, l'événement naturel, le phénomène naturel, il se serait produit de toute façon. Il y a une conjonction de très fortes pluies, de très forts vents et également de très grosses vagues. Donc, ce phénomène naturel, il aurait eu lieu, là, et on ne pouvait pas l'empêcher, il aurait eu lieu. En revanche, ce qui aurait pu être évité, dans une certaine mesure, c'est d'exposer des populations à cet événement naturel. Et on voit bien dans le documentaire que il y a plusieurs facteurs à cette catastrophe dite naturelle. Et moi, j'insisterai sur le fait que cette catastrophe, elle n'est qu'en partie naturelle. Elle est aussi en grande partie anthropique. Une urbanisation dans des zones exposées au risque. Et on l'entend dans le documentaire à plusieurs reprises, il y a des habitations en bordure des cours d'eau n'auraient pas dû être là. On n'aurait pas dû autoriser l'implantation de ces habitants à proximité d'un espace à risque. En dehors de cette croissance urbaine rapide, peu ou pas contrôlée, qui a un problème lié à la couverture végétale, qui est bien évoquée dans le documentaire également. Là aussi, le couvert végétal, la forêt climacique, qu'on appelle climacique, celle qui était à l'origine sur l'île, des lauriers notamment, cette forêt a été détruite au XIXe siècle pour laisser la place à une forêt d'eucalyptus principalement, un arbre à croissance rapide, mais qui résiste mal à l'incendie et qui retient très peu les sols et qui ne permet pas vraiment l'infiltration de l'eau dans le sol. Donc là aussi, il y a une part humaine, une part de responsabilité humaine importante. J'ai noté aussi dans le documentaire la question du déficit d'entretien des cours d'eau, avec pas mal de bois mort qui tombe dans les cours d'eau, bois mort qui n'est pas retiré. Et quand il y a une crue qui se produit, ce bois mort se met en travers de l'écoulement de l'eau et provoque un effet barrage. On appelle ça un effet d'embâcle. Et enfin, il y a aussi un élément qui est important, qui est l'insuffisance culture du risque. Quand on dit culture du risque, c'est la capacité de la population à vivre avec le risque, anticiper le risque et à adopter des comportements qui sont des comportements précautionneux par rapport au risque. Et ça, c'est aussi pointé dans le reportage comme quelque chose qui n'existe pas vraiment à Madère, alors que pourtant c'est une île très vulnérable au risque. Donc tous ces éléments-là font que, oui, la catastrophe aurait pu être évitée.
Mais alors, ce qui est terrible, parce qu'on l'entend aussi dans le reportage, c'est que on a l'impression que les gérants de l'île de Madère n'ont pas appris finalement de cette catastrophe, puisqu'ils reconstruisent dans des lieux à risque. Ils reconstruisent même des infrastructures dans les lieux à risque.
Alors effectivement, on a l'exemple de cette station d'épuration qui est construite dans le lit majeur d'un cours d'eau, donc dans une zone potentiellement inondable en cas de forte crue. Donc effectivement, on a cet exemple-là. Mais moi, j'ai noté aussi quand même qu'il y avait des enseignements qui avaient été tirés quand même de cette catastrophe, puisque j'ai noté que aussitôt après la catastrophe de 2010, de février 2010, un plan de développement de l'île avait été approuvé. Plan de développement de l'île qui visait à identifier les secteurs les plus exposés au risque et éviter à l'avenir de construire dans ces secteurs. Là. Bon, il nous est dit aussi que ce plan de développement de l'île avait été un peu mis entre parenthèses par la nouvelle majorité qui gouverne l'île. Donc il y a eu un enseignement tiré de la catastrophe aussitôt après la catastrophe, mais comme une sorte d'oubli 5-6 ans après la catastrophe, quand une nouvelle majorité est arrivée au gouvernement. J'ai noté aussi qu'il y avait quand même des mesures qui avaient été prises, une réponse technique en fait à la crise de 2010 qui avait été apportée par notamment la mise en place de nombreux ouvrages de protection. Donc c'est une réponse technique qui, électoralement, est très visible. Donc c'est une façon de dire aussi aux habitants, on a pris en compte le risque et puis voilà, on fait des choses, on fait des ouvrages hydrauliques qui vont permettre à l'avenir de se protéger contre le risque. Donc ça, c'est des aménagements d'assoudes, de petites protections en amont des cours d'eau pour filtrer, en fait, pour empêcher les bois, etc., d'être dans le lit, le surcreusement des lits des rivières, des murs de protection, des reforestations en tête de bassin versant, avec des essences fixant mieux le sol que l'eucalyptus. Donc j'ai noté quand même ces éléments-là. Donc oui, il y a un petit enseignement qui a été tiré de la catastrophe. Il y a des réponses immédiates et techniques, surtout techniques, qui ont été apportées après la catastrophe, mais elles restent en mon sens. Il y a aussi une amélioration des systèmes de prévision.
Oui, la prévision météorologique est évidemment essentielle pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Il y a aussi la question de la gouvernance, hein, et ça on le retrouve dans de nombreux pays. On l'entend dans le reportage, c'est plus facile d'accuser Saint-Pierre que des personnalités politiques qui ont méprisé pendant longtemps les discours des écologistes.
Oui, et d'ailleurs j'ai été aussi sensible au fait que l'un des interviewés, qui est directeur du service environnement et changement climatique sur l'île, service qui a d'ailleurs été mis en place à la suite de la catastrophe, cette personne-là, cet acteur-là, n'évoque pas du tout la question des facteurs humains à l'origine de la catastrophe. Il ne met en avant que les facteurs d'ordre naturel. Donc, c'est plus facile d'accuser la nature et de parler finalement de calamité naturelle, de catastrophe naturelle, que de se poser des questions et de réviser complètement son mode de développement en fait, et son mode d'appréhension de la question. C'est une façon de se dédouaner, de se déresponsabiliser quelque part.
Alors cela pose ce reportage au-delà du cas propre de Madère, la question donc de l'adaptation, ça nous en avons bien parlé, mais aussi la question de la limitation du tourisme. Est-ce que le tourisme, on entend bien, est important économiquement pour cette île, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu les priorités ?
Alors, le tourisme est important sur cette île, effectivement. Il génère des retombées économiques importantes dans un espace insulaire dont l'économie est quand même très dépendante de cette activité. Je pense qu'il faut repenser le tourisme. À un moment donné, dans le documentaire, il est fait référence à une orientation vers un tourisme plus qualitatif, ce qui pourrait être une bonne option, mais il faut définir un petit peu plus précisément ce qu'on entend par tourisme plus qualitatif. Et est-ce qu'il s'agit de se tourner vers un tourisme très élitaire qui serait réservé à un tout petit fragment de la population européenne ou nord-américaine ayant les moyens de se rendre sur l'île, de payer davantage pour un séjour sur l'île? Donc c'est extrêmement compliqué, d'autant qu'on est sur une île qui n'est accessible ou qui est grandement accessible uniquement par avion. On se rend peu à Madère en bateau. Et en plus, le bateau pollue aussi, donc il faudrait y aller en voilier. C'est un mode de déplacement qu'on commence à voir apparaître. On voit apparaître des traversées vers la Corse en voilier. On voit apparaître en Bretagne des opérateurs qui proposent des traversées en voilier vers les îles bretonnes. Mais ça reste un tout petit fragment. Et puis, il faut avoir du temps pour faire un voyage en voilier.
Oui, mais au-delà du déplacement pour se rendre sur l'île, la question, c'est comment... Finalement, accepter qu'il y ait toujours autant de populations qui viennent dans une ville extrêmement contrainte par les aléas naturels qu'elle subit, au risque de reconnaître à nouveau des catastrophes.
Oui, c'est compliqué. Et puis, je voudrais peut-être aussi ajouter qu'on a beaucoup parlé de la vulnérabilité des populations au risque, mais pas des touristes au risque. Là, il se trouve que c'était en février, donc c'était en basse saison touristique. Je pense qu'il y avait très peu de fréquentation touristique. Mais les touristes sont aussi des populations extrêmement vulnérables au risque. Et souvent, d'ailleurs, elles sont particulièrement vulnérables parce qu'elles ne connaissent pas le territoire dans lequel elles arrivent. Elles ne savent pas les comportements qu'il faut adopter face au risque. Et elles sont très peu informées. On informe rarement un touriste quand il arrive sur un lieu des risques présents sur le territoire et des comportements à adopter face à ces risques. Donc, on a une population vulnérable qui peut être victime de certains événements. Et je pense par exemple au tsunami de Phuket, enfin au tsunami qui a touché la station balnéaire de Phuket en Thaïlande. Pas seulement ce tsunami a eu un impact beaucoup plus fort sur cet espace, puisque c'est un tsunami qui était né dans l'océan Indien et qui a touché une bonne partie de l'Indonésie, de la Thaïlande, etc. Mais ces effets ont été très très forts à Phuket, en Thaïlande, avec des milliers de victimes et parmi elles de nombreux touristes qui étaient venus passer Noël sur ce territoire.
Sylvie Clarimont, pour conclure, cet exemple de Madère n'est qu'un exemple parmi d'autres. Finalement, cette complexité de hiérarchiser les priorités, elle est mondiale.
Bien sûr, elle est mondiale et elle pose la question de la limitation du touriste, de la réduction des flux touristiques ou de la régulation des flux touristiques. Et c'est une question qui se pose partout, en Europe également, en France également. Je suis invitée prochainement à parler sur les mesures de régulation de la fréquentation sur le littoral méditerranéen d'ailleurs, parce que c'est une question qui se pose de plus en plus. Faut-il limiter l'accès des touristes par la mise en place de quotas, par la mise en place d'autres formes de limitation des flux? Et si oui, est-ce que ces mesures sont acceptables socialement? Est-ce qu'elles sont équitables? Ça pose énormément de questions.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.